Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver, même si c'est pour les dernières séances de cette chaire, de mon cours, avec trois séminaires que j'annonce ici. Aujourd'hui même, le 8 avril, une histoire médaillée du règne d'Abdulhamid II. Le 11 avril, donc lundi, une étude pointue sur un événement précis, le massacre de 1896, le massacre qui débute le 26 août 1896 à Constantinople même, à Istanbul même, et qui se poursuit pendant deux jours, connu comme les événements arméniens, avec les euphémismes que l'on connaît bien de l'historiographie turque. Donc, anatomie d'un massacre, puisque je vous propose de décortiquer ce massacre pour essayer de comprendre quelles sont les dynamiques, comment on peut comprendre la manière dont s'est déroulé cet événement regrettable, comme on dit si poliment. Et le 15 avril, je serai accompagné de Orhan Pamuk, dont Les Nuits de la Peste viennent de paraître en français, et je lui ai proposé de parler de fiction et d'histoire. C'est-à-dire, ceux d'entre vous qui ont déjà lu cet ouvrage auront vu qu'il s'agit d'un roman historique qui, justement, se déroule au tournant du XXe siècle, vers 1900, donc en pleine période hamidienne. C'est pourquoi j'ai tenu à inviter Orhan Pamuk à en parler avec nous. Donc il y a un contexte qui chevauche le thème de mon cours cette année, mais en plus, je suis curieux de voir ce qu'il a à dire, ce qu'il a à nous proposer pour cette relation ambiguë entre histoire et histoire, histoire dans le sens récit, et histoire dans le sens un peu plus scientifique. Donc, fiction et histoire, que pense-t-il de la relation de ces deux notions, et comment a-t-il envisagé de bâtir cette histoire, celle d'une épidémie dans une île imaginaire de l'archipel de la mer Égée en 1900. Donc, trois séminaires un peu pointus, c'est le principe des séminaires. J'essaye autant que possible de brasser large lorsque je vous présente mon cours, et le séminaire est une occasion, lorsque je n'ai pas de colloque, est une occasion d'approfondir certains points qui ont été évoqués lors du cours. Vous remarquerez que les deux premiers séminaires sont un peu diamétralement opposés pour ce qui est de la vision d'Abdulhamid, puisque l'histoire médaillée du règne d'Abdulhamid, on sent bien qu'il y a là une vision, je ne dirais pas forcément positive, mais une vision qui n'est certes pas négative de ce règne, alors que l'anatomie d'un massacre, le massacre de 1896, et pour ceux d'entre vous qui ont assisté à mes cours en janvier, vous saurez que les années 1890, et en particulier l'année 1895 et 1896, a été marquée par une série de massacres perpétrés contre la population civile arménienne en Anatolie orientale, mais aussi à Istanbul, et c'est un peu ce qui a valu à Abdulhamid ce sobriquet de grand seigneur avec un A-I, ou de sultan rouge, rouge à cause du sang versé des Arméniens. D'ailleurs, l'image que j'ai utilisée depuis le début de mon cours cette année, cette caricature d'Abdulhamid, rend bien cette image extrêmement négative qui s'est formée en Occident, notamment en France, à partir des événements de 1895-96, avec Abdulhamid devenant en quelque sorte l'émanation même du mal, de la violence et de la cruauté envers une population victime de représailles et de massacres. Donc aujourd'hui, évidemment, il y aura une critique du règne d'Abdulhamid, mais le fond du problème est de savoir comment l'administration hamidienne fonctionne. Comment l'autocratie hamidienne se nourrit-elle d'idéologies, de symboles? Comment utilise-t-elle les récompenses? Comment utilise-t-elle un phénomène qui est occidental, puisque les ordres et les médailles n'existaient pas dans l'Empire ottoman avant la fin du XVIIIe siècle, c'est une adoption d'une méthode, d'un système qui est entièrement occidental et qui, sous Abdulhamid, prendra une ampleur sans précédent. Donc, c'est un moyen parmi tant d'autres d'essayer de comprendre comment fonctionne la machine étatique, la machine symbolique de l'empire autocratique d'Abdulhamid. Donc nous nous pencherons sur des points de détail qui, et c'est le cas dans la plupart des séminaires que j'ai déjà effectués, qui reposent sur mes propres recherches, puisque, encore une fois, pendant le cours, j'essaie de faire une synthèse. Je vais et je viens entre des recherches personnelles, les résultats de certaines recherches que j'ai déjà effectuées, mais j'essaie toujours de conserver un cadre général qui soit compréhensible à ceux qui ne sont pas des spécialistes du domaine. Mais pendant les séminaires, je me lâche, entre guillemets, et je vous donne à voir la manière dont on peut utiliser la documentation existante pour essayer de comprendre le détail de ces phénomènes historiques. Et dans le cas de ces décorations, c'est quelque chose qui remonte à des recherches très poussées que j'avais effectuées il y a de cela presque 20 ans, en 2004, lors d'une exposition qui avait eu lieu à Istanbul même, traduire Iftihar et Imtiaz, c'est la gloire et la distinction, c'est la fierté et le privilège. C'était une exposition qui portait sur, justement, l'invention des médailles, l'invention des décorations, l'invention des ordres dans la Turquie ottomane à partir de cet événement marquant qu'était l'occupation de l'Égypte par Bonaparte, qui a été le premier déclic pour les Ottomans, puisqu'ils ont dû, à la sortie victorieuse grâce à Nelson de cette aventure de 3 ans, ont dû récompenser les officiers et les soldats britanniques qui avaient participé à la libération de cette province de l'Empire ottoman. Et pour ce faire, ils avaient dû se plier aux exigences des officiers et du protocole de l'étiquette militaire britannique. Ils avaient dû s'inventer des ordres, l'ordre dit du croissant, et des médailles, chose qui n'avait jamais été utilisée dans la tradition militaire ou civile ottomane. Au fur et à mesure, et ça leur a quand même pris 3 décennies, vers les années 1830, les Ottomans vont finalement passer le cap d'un usage extrêmement pragmatique qui n'avait d'autre but que de répondre à l'attente des Occidentaux, c'est-à-dire que tous les premiers ordres et toutes les premières médailles ottomanes étaient bonnes pour l'Occident, si l'on veut inverser l'expression qu'on utilise en général pour l'Orient, bon pour l'Orient, elles étaient bonnes pour l'Occident, c'est-à-dire qu'elles ne servaient qu'à récompenser des Occidentaux, des représentants des puissances occidentales, des diplomates, des militaires, des gens que l'on voulait honorer, et elles n'étaient jamais utilisées pour des sujets ottomans. Ce n'est que vers la fin des années 1820 que les Ottomans ont commencé à introduire la notion de la récompense à l'occidental pour célébrer les hauts faits de leurs propres sujets et pour remercier, récompenser des membres de l'élite militaire et civile de l'Empire ottoman. Une fois ce cap passé, une fois que les Ottomans prirent goût, en quelque sorte, à ce côté un peu bling-bling du XIXe siècle, vous savez qu'on a appelé le XIXe siècle le siècle des décorations, c'est vrai un peu partout, on sait à quel point en Occident les décorations sont échangées, elles font partie de la diplomatie, elles font partie de nouvelles notions de mérite militaire, mais aussi civil. C'est au XIXe siècle qu'apparaissent les premières bénéficiaires féminine de la Légion d'honneur ou d'autres ordres. Donc il y a vraiment un changement radical qui survient en Occident avec la diffusion de cette tradition qui restait très, très ciblée, très limitée auparavant. Elle s'intègre en quelque sorte dans le discours national, le discours de la nation. L'État et la nation, l'État, la nation et le peuple sont liés par l'idéologie et sont liés par des symboles dont les décorations sont un élément extrêmement important. Et par conséquent, les Ottomans, même si c'est avec quelques décennies de retard, vont s'accrocher à cette nouveauté et vont introduire nombre de décorations, nombre de médailles qu'ils vont utiliser à des fins diplomatiques, c'est-à-dire pour s'attacher la loyauté, la fidélité ou la sympathie de représentants des puissances occidentales, mais aussi pour coopter la loyauté, la fidélité des sujets de l'Empire en les encourageant à se montrer de plus en plus fidèles, de plus en plus serviables à l'État. Abdulhamid ne fait pas exception à la règle. En fait, Abdulhamid va pousser l'art de la médaille, l'art des décorations, à un extrême inégalé. C'est pendant son règne, déjà le fait que son règne ait duré 33 ans explique la longévité de cette tradition, mais c'est aussi l'intensité et la créativité. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître à Abdulhamid une certaine intelligence politique, une manipulation des symboles de l'opinion publique, de l'idéologie, qui est exceptionnelle comparée à ses prédécesseurs. D'abord, et ça je l'avais dit, j'avais insisté lors d'un de mes cours en janvier, c'est un sultan qui règne, bien sûr, mais qui gouverne. J'avais établi un parallèle un peu hardi entre Louis XIV et Abdulhamid. Le roi gouverne par lui-même, comme vous le lisez dans la Galerie des Glaces à Versailles. C'est un peu le motto d'Abdulhamid. Il n'est pas, il ne se contente pas de régner, d'être adulé comme n'importe quel sultan, il veut gouverner. Et il veut gouverner avec une combinaison étrange d'autocratie qui rappelle un peu la manière dont Mahmoud II, son grand-père, avait chamboulé l'Empire ottoman en introduisant des nouveautés, des néologismes, des traditions empruntées et à demi digérées d'Occident. Donc, à mi-chemin entre cette autocratie mahmoudienne, une autocratie un peu traditionnelle, même si elle est teintée d'occidentalisation, à mi-chemin entre cette autocratie traditionnelle et une autocratie rationnelle, une autocratie moderne. Et c'est pourquoi, encore une fois, avec une comparaison qui est peut-être un peu trop hardie, j'établis une sorte de parallélisme entre le règne d'Abdulhamid et la Troisième République en France. Non pour les valeurs politiques et l'idéologie que ces deux régimes représentent, mais pour la puissance transformative de la pratique du gouvernement, de l'administration, et le désir de pénétrer toute la société, de transformer toute la société de manière extrêmement radicale. Évidemment, la comparaison s'arrête là, puisque comparer un empire qui s'étend encore dans les années 90 du Yémen à la Bulgarie, voire à l'Albanie, avec une France métropolitaine qui est quand même bien circonscrite, bien homogénéisée grâce à toutes les pratiques exclusionnistes des siècles précédents, ça n'est pas la même chose. Et par conséquent, on ne peut pas comparer la mission des instituteurs ottomans qui sont envoyés au Yémen avec celle des instituteurs en France qui sont envoyés en Provence ou en Bretagne pour faire des petits Bretons ou des petits paysans des Français. Pour reprendre le titre du célèbre ouvrage de Eugene Weber, Peasants into Frenchmen, transformer des paysans en français, en citoyens français. C'est ça la Troisième République. Mais le principe est le même. La pratique, évidemment, est différente. Nous parlons d'un empire multiethnique, multiconfessionnel, mais le principe est le même. Il s'agit de moderniser, d'user, d'abuser même de tous les instruments que la modernité octroie à l'État et aux agents de l'État pour essayer de transformer cette population, le pays, de manière à servir les besoins de l'État, l'idéologie de l'État. Donc, Abdulhamid est en quelque sorte un génie de la politique. Il a une vision très claire de la manière dont la politique peut être utilisée pour arriver à certaines fins. Et ceci pendant les 30 ans de son règne, avec des hauts et des bas, et dans des circonstances qui étaient parfois extrêmement contraignantes, notamment financièrement et économiquement parlant, puisque l'Empire était carrément en faillite lorsqu'il est, lors de son avènement. C'est un empire en faillite qu'il faudra renflouer et que l'on ne pourra renflouer en fait qu'au prix de se soumettre à la bonne volonté et au contrôle des grandes puissances. Je vous ai parlé de la dette publique ottomane. C'est donc une mise sous tutelle de l'économie et des finances ottomanes. C'est une perte d'indépendance. C'est une forme de colonisation. Donc, les conditions sont loin d'être idéales, et pourtant, il essaye, dans ces conditions-là, d'inventer une sorte d'amalgame entre des idéologies extrêmement traditionnelles, telles l'islam. Nous le connaissons pour la manière dont il va user et abuser de l'islam comme d'une idéologie censée réunir le restant de la population, notamment après la débâcle de 1878, avec des éléments extrêmement nouveaux, modernes, des technologies modernes qui vont lui permettre de diffuser ces défis idéologiques et politiques à travers l'Empire, avec un succès qui varie selon les régions, selon les temps. Mais en tout cas, l'avantage des décorations, c'est qu'on a un objet concret sur lequel on peut fonder son analyse de cette pratique. L'avantage des décorations, c'est qu'elles sont parlantes. Elles ont toujours un objectif, Elles ont toujours un attrait visuel, une représentation visuelle qui est soit idéologiquement, soit politiquement, soit religieusement parlante, qui utilise des symboles, qui utilise des références visuelles qui sont pas forcément pour tous, mais qui sont quand même compréhensibles par une majorité de la population. Et elle s'accompagne toujours d'une rhétorique politique, puisque la moindre décoration est en général accompagnée d'un diplôme qui énonce les raisons pour lesquelles cette décoration a été décernée, octroyée à tel ou tel individu. Donc c'est vraiment un objet qui a l'avantage de ressembler un peu à des pièces de monnaie, à un objet dont la valeur est... La valeur intrinsèque est généralement assez élevée. Associer un objet à un discours politique et idéologique qu'il nous est possible d'analyser. Et d'ailleurs, ce discours ne se limite pas à la rhétorique purement normative des diplômes ou des statuts de tel ou tel ordre. Nous avons aussi un discours de réception, c'est-à-dire la manière dont ces décorations sont perçues par certains groupes, par certains individus, et par conséquent, nous pouvons tenter de boucler la boucle qui me paraît toujours essentielle lorsqu'on fait de l'histoire, lorsqu'on analyse un phénomène, c'est de partir, en gros, pour utiliser une métaphore économique, partir de la production pour aller jusqu'à la diffusion, la distribution, et arriver à la consommation ou réception. Puisque le problème en histoire, et c'est un problème qui est d'autant plus vrai dans le cas de l'histoire ottomane, c'est que nous avons beaucoup plus d'informations en amont qu'en aval. C'est-à-dire que nous avons beaucoup plus d'informations sur la création, la production de tel ou tel objet ou de tel ou tel discours. Nous avons des textes normatifs qui sont issus de la bureaucratie, de la chancellerie, de l'Empire. Mais alors, quand il s'agit de comprendre à quel point ce discours, à quel point cet objet, à quel point cette interdiction est vraiment perçue, comprise, respectée ou, au contraire, refusée, rejetée par la population ou par certains groupes, là, on est souvent dans le noir. Il y a beaucoup de raisons pour cela, encore une fois, parce que ça n'est pas dans la définition des objectifs de l'État que de recueillir des informations sur tous les détails, toutes les péripéties de ce cycle de circulation et de transmission et de réception. Et en plus, il nous manque, et je parle là de l'Empire ottoman en particulier, il nous manque le genre de documentation qui fait la richesse justement de l'historiographie occidentale. Je veux parler d'une presse plus ou moins libre, très variée. Je veux parler de romanciers. Je veux parler de commentaires que l'on trouvera, que l'on glanera ici et là dans une documentation indépendante de l'État et qui représente, avec plus ou moins de bonheur, les tendances intellectuelles, culturelles, mentales, psychologiques d'une population qui est soumise à cette propagande, à ces interdictions, à cette politique, à ces transformations, etc. Donc, c'est quelque chose qui nous manque amèrement dans l'Empire ottoman. La presse n'est pas libre. Vous vous souviendrez, lorsque j'avais parlé des massacres arméniens en 1895, je vous avais donné la une des journaux le lendemain des événements survenus à Istanbul même. Rien, rien. Le silence le plus complet. Et c'est surprenant de voir que cette tradition d'une presse soumise à l'autorité et à la volonté de l'État, ou plutôt du gouvernement, puisqu'il s'agit toujours d'une sorte de conquête de l'État par le gouvernement, c'est quelque chose qui caractérise la presse turque au XXe siècle, ou la presse turque même aujourd'hui. et qui interdit par conséquent de se faire une idée claire de ce qui se passe vraiment à l'échelle nationale, à l'échelle populaire, etc. Donc nous avons très peu de romanciers. Le roman est une invention du diable, allais-je dire, de l'Occident. Les Ottomans s'y mettent très tard. Le premier roman date des années 1850 et il est arménien. C'est un certain Vartan Pacha qui va créer ce premier roman. Et ensuite, ces romans sont vraiment des pastiches, en quelque sorte, des grands romans ou de ceux que l'on considère être les grands romans de l'Occident. Le rouge et le noir de Stendhal devient le bleu et le noir chez... Il n'y a même plus de son nom. Enfin, je me comprends. Cette documentation est extrêmement faible, extrêmement superficielle, et par conséquent, il faut trouver des moyens de creuser au-delà de la rhétorique de l'État pour essayer de retrouver des bribes d'informations qui seraient susceptibles de nous donner une idée de la manière dont les rapports entre État et société, État et individu, fonctionnent dans cet empire. Pour Abdulhamid, ses débuts concernant la production et l'utilisation des médailles et des ordres est extrêmement modeste. D'ailleurs, je dois tout de suite vous dire, j'avais intitulé ceci « Une histoire médaillée du règne d'Abdulhamid », j'ai menti ou j'ai exagéré, puisqu'une histoire médaillée, c'est autre chose. L'histoire médaillée, c'est ce qu'on faisait au XVIIe siècle en particulier. Louis XIV, encore une fois, adorait se constituer une histoire médaillée, c'est-à-dire une histoire de son règne par les médailles. Des médailles qui ne sont pas vraiment des médailles que l'on donne à un simple troufion après une victoire, mais des médailles commémoratives qui sont en général extrêmement prestigieuses, généralement en or, souvent en argent, et qui commémore un événement marquant, un phénomène marquant du règne. Et l'histoire médaillée de Louis XIV, c'est bien sûr la conquête des Pays-Bas, c'est toutes sortes d'événements qui font la gloire, la force, la puissance de la France en cette fin de XVIIe et début de XVIIIe siècle. Là, j'ai un peu triché. J'ai pris cette histoire médaillée dans un autre sens, puisque pour ce qui est de l'histoire médaillée, il manque aux Ottomans quelque chose d'absolument crucial, l'image. Puisque l'histoire médaillée, elle est en général fondée sur l'usage d'images. On illustre, ce sont un peu des tableaux sur métal, des tableaux qui illustrent les épisodes les plus glorieux d'un règne. Et de toute façon, ne serait-ce que le portrait ou le profil de Louis XIV est quelque chose qui est incontestablement une constante de cet univers médaillé. Les Ottomans, à l'exception de quelques cas très particuliers, n'utiliseront pas l'image. Et il faut le reconnaître, les symboles sans image, ça n'est pas évident. C'est difficile, puisque nous parlons d'une société où le taux d'alphabétisation est probablement extrêmement bas. On n'a pas vraiment de statistiques, mais les estimations vont autour de 5%, 10% peut-être. Et en plus, sans garantie que ce soit une alphabétisation universelle, puisqu'il y a je ne sais combien d'alphabets qui sont utilisés selon les rites, selon la religion, la confession des communautés. Donc, il est pratiquement impensable qu'un texte écrit, rédigé, gravé sur le métal puisse vraiment atteindre le peuple. Ça n'existe pas. C'est vrai d'ailleurs pour les inscriptions que l'on voit sur les monuments, qui sont extrêmement fournis, et on a toujours énormément de mal à comprendre pourquoi les Ottomans écrivaient tant alors que personne ne lisait ces inscriptions. Regardez la moindre fontaine impériale, elle est couverte de vers qui non seulement sont écrits dans des caractères qui ne sont pas accessibles à la majorité de la population, mais en plus dans des langues qui ne le sont pas non plus, puisque la poétique ottomane est souvent très persianisée, et par conséquent, le texte de fondation d'une fontaine sera en persan. Donc même si le kidam dans la rue pouvait déchiffrer ce qui est écrit, il aurait du mal à comprendre ce qui était dit. Donc, il faut se rendre compte que le symbolisme, ça n'est pas de la lecture, c'est de la vision. Et que par conséquent, ces textes fournis, fouillis, très fournis, très compliqués, ces textes n'étaient pas lus, et d'ailleurs, il n'était pas nécessaire de les lire pour savoir de quoi ils traitaient. Ils étaient perçus immédiatement, fonctionnellement, puisqu'on savait que, déjà de mémoire, que telle fontaine avait été fondée par telle sultane, par tel sultan, par tel pacha, et on savait que l'inscription allait dire de très grandes choses et de très belles choses de cet individu, et se terminer par un verset coranique qui célébrait la pureté de l'eau pour les ablutions. Donc c'était évident, on n'a pas besoin de lire pour comprendre de quoi il s'agit. Mais il n'en est pas moins vrai que lorsque l'on veut communiquer un message impérial, un message personnel, il vaut mieux avoir une image qu'un gribouillis que l'on appelle Toura, le chiffre impérial, le monogramme impérial. En voici un exemple. Pour l'Ottoman moyen, je peux vous garantir qu'il n'y a vraiment pas de possibilité de distinguer la Toura, donc ce monogramme impérial, d'un sultan ou d'un autre. C'est extrêmement compliqué à lire, il faut vraiment se pencher sur ce que j'appelle le ventre de la Toura pour essayer d'y déchiffrer le prénom du sultan régnant et à la rigueur celui de son père. Et ça n'est pas accessible au premier venu. Donc, c'est un des problèmes majeurs, si vous voulez, de la symbolique ottomane, et c'est un problème qu'ils ne pourront vraiment régler qu'après 1908, après la révolution de 1908, lorsque l'image fera irruption, lorsqu'il sera possible de mettre le portrait du sultan sur un timbre-poste, lorsqu'il sera possible d'illustrer toutes sortes d'objets qui circulent en très grand nombre, de les illustrer de canons, de navires, d'individus, de héros. La nouveauté de 1908, c'est le héros, c'est Enver Bey, c'est Niazi Bey, ce sont ces nouveaux militaires qui promettent la lune à la population et qui deviennent vraiment des symboles d'une nouvelle Turquie, d'un nouvel empire ottoman, et qui auront leur place sur des cartes postales, dans la presse, etc. Mais jusque-là, les Ottomans sont limités à un usage extrêmement opaque de représentations textuelles ou symboliques, telles les lauriers, etc. Mais enfin, des lauriers, vous en voyez une fois, vous en voyez deux fois, on finit par comprendre qu'il y a quelque chose de militaire à cela, mais c'est tout. On ne va pas très loin en jouant avec des couronnes de lauriers. Abdulhamid commencera donc avec une médaille extrêmement modeste, que voici, et qui commémore un événement désastreux, la guerre russo-ottomane. Vous vous souviendrez qu'à peine arrivé sur le trône, il se retrouve plongé dans une des crises, des plus grandes crises que l'Empire ait connues, et au bout de 6 mois à peine, en avril 1877, l'Empire est aux prises avec la Russie, avec ce voisin extrêmement encombrant qui a des visées sur Constantinople, sur les détroits, sur, c'est classique, le passage vers les eaux chaudes de la Méditerranée, etc. Et les Ottomans, en moins d'un an, sont battus à plate couture par les Russes, à tel point que l'armée russe arrive à Hagia Stéphanos, Yeşilköy aujourd'hui, aux portes de Constantinople, et force l'Empire à capituler avec des conditions épouvantable. La perte de la Bulgarie, la perte de la plupart des territoires dans les Balkans, une mainmise en quelque sorte de la Russie sur l'autonomie, la souveraineté de l'Empire ottoman. Le tir est corrigé, le côté tragique en quelque sorte de ce traité d'Hagia Stéphanos, de San Stefano, en mars 1878, sera corrigé en juin avec le congrès de Berlin grâce à l'intercession de la Grande-Bretagne. Et les Ottomans s'en tireront un peu mieux vis-à-vis de la Russie, même s'ils devront payer le prix de cette intercession en cédant aux grandes puissances bien des territoires, dont Chypre, immédiatement après la signature de ce traité. C'est donc une guerre perdue que Abdulhamid va célébrer avec cette médaille de la campagne de Russie. Ce qui est intéressant, et c'est là que l'on voit que Abdulhamid n'est pas n'importe qui et qu'il est en train de réfléchir à l'usage qu'il doit, qu'il peut faire de ces objets, cette médaille sera rééditée la même année, immédiatement. D'ailleurs, il semblerait que la première version, nous parlons de 1878, que la première version n'ait même pas été circulée et octroyée, décernée. Quelles sont les différences ? Alors, vous connaissez le jeu des 7 différences. Quelles sont les différences entre les deux versions, recto-verso, n'est-ce pas, à chaque fois, de ces médailles ? Alors, déjà, quelque chose d'assez... Voilà. Quelque chose d'assez simple. Vous avez vu que le croissant ici, et le croissant est évidemment créé pour qu'on puisse y inscrire le nom de la bataille, le nom de la campagne pour laquelle cette décoration a été décernée. Elle est, le croissant est rempli par, avec l'inscription « Russia Muharebesi ». Guerre de Russie, campagne de Russie, bon, rien de problématique. Mais la véritable différence, celle qui est vraiment intéressante, c'est la modification de la toura. Vous remarquez que la toura d'origine était décorée d'un petit bouquet de fleurs, d'une rose. Et c'est quelque chose que le père d'Abdul Hamid, Abdul Mejid, utilisait sur sa toura. Au XIXe siècle, les sultans ottomans, ou certains sultans ottomans, vont avoir recours à ce petit truc visuel, celui de rajouter sur le côté supérieur droit de leur toura quelque chose, un signe distinctif. Et je crois que ça s'explique par le fait que, justement, rien d'autre ne permet vraiment de distinguer une toura de l'autre. La rose n'a rien d'exceptionnel, ce n'est pas un symbole politique, nous ne sommes pas en Angleterre au Moyen-Âge. C'est tout simplement la jeunesse, probablement, puisque Abdulmejid était. L'avènement d'Abdulmejid avait eu lieu en 1939, alors qu'il avait 16 ans. Et la symbolique de la rose, de la petite fleur, de la jeune tige, est quelque chose qui est utilisé dans la poésie et la culture ottomane. Donc il faut croire que c'est ce qui avait motivé son père. Son grand-père, Mahmoud, lui, avait une inscription ici même qui se lisait Adli, Adli, et Adl, c'est la justice, Adli, c'est le juste. Donc, il s'était donné un sobriquet, et ces sobriquets est une chose que l'on connaît pour d'autres sultans au siècle précédent, notamment lorsqu'ils signaient de la poésie, ils utilisaient généralement un sobriquet qui faisait référence à leur goût, à une croyance, une tendance, peu importe. Mais Adli, c'était quand même un message beaucoup plus politique qui, en quelque sorte, faisait référence au fait qu'il avait l'intention d'établir un nouveau système. Et ce qu'il y avait de vraiment frappant, c'est qu'aucun sultan, avant cela, n'avait fait usage de ce petit additif, de ce petit rajout à la droite de la Toula. Adli pour Mahmoud, la rose pour Mejid, Abdulaziz et Mourad n'ont rien utilisé, et Abdulhamid, tout d'un coup, décore sa propre toula de la rose de son père. Mais peu après, pour la version définitive de cette médaille, cette rose sera remplacée par un petit sobriquet calligraphié qui se lit El Ghazi, le Ghazi, c'est-à-dire le guerrier de la foi, une référence au titre que les beys ottomans, les pères fondateurs de la dynastie, à commencer par Osman Bey, se donnaient, ainsi que leurs compagnons, au XIIIe, au XIVe siècle, alors qu'ils définissaient leur action guerrière comme étant une guerre sainte. Donc, c'est un peu la djihad, si vous voulez, mais une djihad circonscrite au travail des chevaliers, des beys qui dominaient l'Anatolie avant le XVe siècle. Et d'ailleurs, ce terme va tendre à disparaître avec la conquête de Constantinople et l'établissement d'une forme impériale. Les Ghazis seront pratiquement limogés par Mehmed II le Conquérant après 1453, et par conséquent le titre de Ghazi est quelque chose qui restera dans l'imaginaire populaire pour en gros dénoter un individu qui combat les chrétiens sur le front. Et le fait de voir Abdulhamid revendiquer ce titre est intéressant parce que c'est déjà une sorte de représentation de la mission islamique, la teinte islamique qu'il va donner à son règne, à son empire dans les années qui suivent. En est-il vraiment conscient ? On ne le sait pas exactement. On sait que Selim III, à la fin du XVIIIe siècle, avait bien revendiqué ce titre de Ghazi après l'invasion de Bonaparte en Égypte. Mais ses successeurs n'en avaient rien fait. Abdulmejid, par exemple, lorsqu'il participe à la guerre de Crimée, n'a jamais tenté de revendiquer le titre de Ghazi. Or, Abdulhamid le fait, nous avons d'ailleurs des documents de mai 1877, donc dans le premier mois de du conflit, où il essaye, il revendique le titre de Ghazi, guerrier de la foi. Donc, c'est un début extrêmement modeste, une petite médaille de pas grand-chose qui ne célèbre aucune victoire, mais plutôt une défaite, mais elle est déjà lourde de conséquences puisqu'elle arbore ce qui sera l'apanage d'Abdul Hamid pendant tout son règne. Cet ajout de El-Ghazi est quelque chose qui ne quittera jamais la Toura impériale. Elle sera désormais, pendant les 33 ans de son règne, elle sera désormais toujours décorée de ce petit rajout de Ghazi. Sinon, la seule médaille, encore une fois, de la campagne de Russie qui représente un certain honneur, une certaine victoire, est celle de Plevné, Plevna en Bulgarie, où Osman Pacha, et ça a fait énormément de bruit à l'époque, a résisté, il a fini par céder, mais a résisté de manière glorieuse au siège des Russes. Et par conséquent, les participants à cette campagne seront décorés, et vous pouvez probablement voir que même la qualité de la médaille a décru. N'oublions pas, l'Empire est en faillite. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on refond d'anciennes médailles, on altère le titre de l'argent, et par conséquent, ces médailles de Plevné ne sont en fait que des médailles argentées, pratiquement, et non pas des médailles d'argent. Ce qui en dit long sur le désespoir de l'Empire, mais vous y voyez fièrement El-Ghazi figuré à la droite de la Toura d'Abdul Hamid. Donc c'est désormais un élément inséparable de la Toura, celle de Abdul Hamid El-Ghazi, et il l'utilisera toujours dans sa titulature. Une fois la crise russe passée, Abdul Hamid va pouvoir s'adonner à ses problèmes de symbolique. C'est vrai de pratiquement tout ce qu'il a fait. Une fois qu'il a pacifié l'Empire, une fois qu'il a négocié un traité plus ou moins acceptable, et une fois qu'il aura aussi stabilisé la monnaie et stabilisé l'économie avec l'établissement de la dette publique ottomane, il va s'adonner à rebâtir l'Empire selon les termes de sa puissance, selon les moyens qu'il associe avec l'établissement de son autocratie. Et c'est vrai aussi pour les décorations. Et pour ce faire, il va utiliser les techniques de ses prédécesseurs, c'est-à-dire d'interpréter des objets occidentaux, les adapter aux besoins de son empire, et par conséquent, copier en quelque sorte, mais copier de manière assez créative, les modèles qui leur étaient offerts par l'étiquette et le protocole occidentaux. Ce qu'il ne fera pas, et je pense que c'est aussi un signe d'intelligence, il ne créera pas d'ordre à son nom. Le premier ordre, vous le voyez ici, que les Ottomans avaient créé, le premier ordre moderne qu'ils avaient créé, était l'ordre de Mejidi. L'ordre Mejidi, c'est-à-dire l'ordre d'Abdul Mejid, qui, encore une fois, reprend la symbolique des grands ordres occidentaux en les islamisant, en les turquifiant, mais en les rendant donc tout à fait visuellement comparables avec les ordres occidentaux. Abdul Mejid s'était donc créé son propre ordre, comme Léopold, comme Franz Josef. Abdulaziz, son successeur, avait créé un ordre ottoman, l'ordre Osmani. Alors lui, il avait introduit pour la première fois une part d'islam que l'on reconnaît à l'usage qui est fait de certains motifs orientaux, orientalistes, l'usage du vert et une inscription ici qui est entièrement en arabe et qui, en gros, veut dire Abdulaziz, sultan des Ottomans par la grâce de Dieu, version arabe. Donc une islamisation, une sorte de réaction à l'occidentalisme à outrance de son frère aîné. Là, on retombe dans un discours plus conservateur et un discours qui va utiliser comme référence l'islam, bien sûr, mais aussi la dynastie. Le père fondateur de la dynastie, Osman, et vous avez d'ailleurs au dos de ces objets des représentations des timbales des janissaires, donc encore une fois une référence à un passé glorieux, et la date 699 qui correspond à 1299-1300, la date supposée de la création de l'Empire ottoman. Donc on voit que déjà sous Abdulaziz, on était passé d'un discours purement impérial, personnel, à un discours dynastique. Et voici comment les ordres ottomans fonctionnent. Encore une fois, je vous ai mis au milieu un des ordres classiques d'Occident, l'ordre britannique de Saint-Georges et Saint-Michel. Vous voyez très bien que ce que les Ottomans font, en gros, c'est prendre la forme, se débarrasser de tout ce qui est évidemment chrétien, c'est-à-dire la croix, les anges, les chérubins, etc., et se défaire aussi des couronnes, puisque la couronne n'a pas de sens dans un contexte ottoman, et de remplacer tous ces éléments par des éléments beaucoup plus neutres, le soleil, une étoile, la toura, bien sûr, le croissant et l'étoile, des symboles qui sont compatible avec l'idéologie encore très vaguement définie de l'Empire ottoman. Abdulhamid donc va créer son propre son ordre, non pas son ordre puisque ce n'est pas un ordre créé en son nom, mais son premier ordre qui sera lui aussi directement inspiré de modèles occidentaux et qui reprendra encore une fois la forme extrêmement neutre de l'étoile, l'étoile à cinq pointes, qui est déjà plus ou moins acceptée comme un élément essentiel du symbole du pays, le croissant et l'étoile. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire pour cette décoration qui est créée en 1878, c'est que c'est l'ordre de la charité et qu'il est défini pour être octroyé, conféré aux femmes. Et ça, c'est révolutionnaire, c'est extraordinaire, puisque ça n'existe pas vraiment. Vous avez bien en Russie l'ordre de Sainte-Anne, mais en gros, vous n'avez pas d'ordre féminin dans la tradition occidentale. Vous avez de plus en plus, mais les chiffres restent extrêmement limités, vous avez des légions d'honneur qui sont octroyées à des femmes, mais ça reste extrêmement minoritaire. Et là, c'est un coup de génie qui est inspiré par les conditions de la guerre, puisque lors de la guerre, alors voici donc la plaque que l'on porte sur la poitrine et ce que l'on suspend, les insignes que l'on suspend au cou avec un grand cordon. Et c'est un trait de génie, c'est un coup de génie, puisque remarquant que la guerre et la défaite ont provoqué une sorte de vague de sympathie du côté occidental, qui se traduisait souvent par l'établissement d'hôpitaux et le financement des soins aux blessés et aux familles des blessés et aux familles de réfugiés, et que la plupart de ces entreprises étaient gérées, dirigées par des femmes, Abdulhamid s'est dit, voilà, je vais, et nous en avons la preuve, puisque l'ambassadrice britannique, la femme de Lord Layard, elle-même relève dans ses mémoires qu'Abdulhamid lui avait dit, bien avant la création de cet ordre, qu'il avait l'intention de créer un ordre spécialement dédié aux femmes. Donc, un trait de génie, puisque il recherche l'originalité, tout en pratiquant dans la tradition, c'est-à-dire en épousant quelque chose qui est fait en Occident, la tradition des décorations, et tout cela s'inscrivant dans la logique, dans les circonstances exceptionnelles de la défaite. Et en fait, il profite de la défaite, de la victimisation, pour en tirer un capital de sympathie, un capital émotif, pour créer cet ordre qui est appelé l'ordre de Shefkat. Alors, Shefkat, en turc, c'est la compassion, c'est la charité, c'est un peu tout. Hein. Vous avez des termes comme ça qui sont extrêmement fluides. Et quand on voit le motto, la devise de cet ordre, on voit que la référence est à des vertus qui sont, dans le contexte culturel, idéologique du XIXe siècle, généralement associées à des femmes. Nous sommes dans un univers bourgeois, conservateur, victorien, sexiste, et par conséquent, Hamiyet, ça va aussi pour les hommes, puisque c'est le patriotisme, c'est le soutien du pays. Mais le reste, insaniyet, humanité, c'est quelque chose que l'on associe avec des vertus féminines. De même, mouavenet, l'entraide. Donc il y a une référence directe, et vous savez que cette tradition des devises qui entourent le centre de ces décorations est quelque chose de très occidental. Si vous connaissez la Légion d'honneur, vous y verrez, quel que soit le régime, honneur et patrie, qui définissent en quelque sorte les fondements de cet objet. Non sans surprise, c'est Lady Layard, la femme de l'ambassadeur britannique, qui sera la première bénéficiaire de cet ordre, très fière, arborant cette nouveauté, mais c'est un ordre qui va commencer à circuler de plus en plus. Il y a trois classes, ce qui permet d'en donner de beaucoup plus modestes à des femmes méritantes. D'ailleurs, il n'y a pas de mystère, les femmes qui reçoivent cet ordre de charité, même s'il était, il a été conçu pour récompenser des femmes qui avaient été actives dans le service des hôpitaux, etc., en 1877-78, bien vite, ça ne devient que des femmes d'ambassadeurs, des épouses de tête couronnée, des femmes qui, en fait, n'ont d'autre mérite que d'être la femme d'un un bénéficiaire des grands ordres. À l'intérieur, ce sont les femmes et les filles des pachas, ce sont les femmes et les sœurs des bureaucrates, et ce sont aussi des membres du palais, notamment des esclaves du palais, puisqu'on sait que le harem est extrêmement hiérarchisé, et par conséquent, des femmes qui ont un statut quelque peu élevé au harem impérial vont recevoir cette décoration, à tel point que nous la retrouvons ici sur une pierre tombale dans le cimetière de Yahya Efendi à Istanbul, et c'est la pierre tombale justement d'une esclave, d'une trésorière du harem qui, de son vivant, avait reçu cette décoration et, une fois morte, conservera cette trace de l'honneur qui lui avait été fait. Donc, première tentative et un véritable succès. Deuxième tentative, encore une fois, il ne va pas jouer la carte de sa propre personnalité, mais va jouer celle de la dynastie et créer un ordre ottoman de la distinction, mais qu'il qualifiera de sublime. Sublime, effectivement, vous voyez que c'est quand même assez m'as-tu vu, c'est C'est quelque chose que des présidents tels Giscard d'Estaing auraient probablement apprécié. Donc beaucoup d'or, beaucoup de diamants, des émeraudes, encore une fois le vert étant une représentation de l'islam, une devise que l'on devine à peine, tellement elle est cachée par le miroitement le reflet de l'émeraude, mais en gros, sadaqat, loyauté, fidélité, shejaat, courage, bravoure, bravitude pour certains, gairet, l'effort, et hamiyet, encore une fois, hamiyet, le patriotisme, l'amour de la patrie, l'amour de l'État. Et c'est une décoration extrêmement prestigieuse qui ne sera éditée qu'en très peu de nombre et qui ne sera octroyée qu'à une quarantaine de personnes, dont des grands vizirs tels Ahmed Javed Pasha, nous le voyons ici arborer la plaque et l'insigne de l'ordre sublime de la distinction, ou alors des têtes couronnées, et c'est Guillaume II, l'empereur d'Allemagne, qui sera le premier bénéficiaire de cette décoration et qui tiendra à l'arborer à chaque fois qu'il se trouve dans un contexte ottoman. Et là, on le voit en 1916, lors de sa troisième visite pendant la guerre dans l'Empire ottoman, où il s'est plu à arborer la décoration qu'il avait reçue par deux fois d'Abdulhamid. Dernier ordre qu'il va créer, l'ordre de la dynastie. Alors là, c'est quelque chose d'encore plus sélectif qui ne concerne vraiment que les membres de la dynastie ottomane, qui sera donné plus ou moins systématiquement à tous les princes et princesses de l'Empire ottoman et un très petit nombre de têtes couronnées en dehors de la dynastie. Ce qui est intéressant ici, c'est à nouveau l'usage de la tradition, puisque nous voyons ici 699, vous vous souviendrez que c'est la date de l'Égir qui correspond à 1299, cette fondation supposée de l'Empire ottoman, 699, 1311, 1311, c'est 1893, la date à laquelle est créée cette décoration. Au milieu, la toura d'Abdulhamid avec son inséparable El Ghazi, le rouge dynastique, le rouge turc, si vous voulez, qui symbolise l'État, et la formule que j'avais traduite par Sultan des Ottomans par la grâce de Dieu, une formule en arabe qui entoure la toura. Et tout autour, un doux mélange de symboles tels le croissant et la lune, mais aussi une sorte de turban, quelque chose de très orientaliste en fait, qui sera utilisé sur les armoiries de l'Empire, ainsi qu'un bouclier qui symbolise encore une fois le passé prestigieux de l'Empire ottoman. Donc une décoration d'exception. Vous la voyez ici, au cou de deux rejetons de la famille impériale, la princesse Najiyeh Sultan, son frère Sherafettin Efendi. Vous remarquerez que Najiyeh Sultan a aussi la croix l'étoile plutôt du chef Kat, de la charité. Donc c'est vraiment, on voit qu'on s'en donne à cœur joie à distribuer ces décorations au sein de la dynastie. Pour vous donner une idée de l'impact diplomatique de ces décorations, voici une liste qui n'est même pas complète, mais qui vous donnera une idée de la manière dont Abdulhamid utilise ces trois ordres, la charité, la distinction et la dynastie, pour meubler un peu sa diplomatie, pour créer des liens, créer un réseau avec les têtes couronnées d'Europe. On voit que la charité est octroyée systématiquement à des femmes de des têtes couronnées féminines, elles sont rares, ou des femmes de souverains. Nous voyons, là c'est une erreur, il fallait déplacer ça vers la distinction. La distinction, c'est celle qui est distribuée à des souverains, mais aussi à Émile Loubet, par exemple, en tant que représentant de la République française, mais aussi à Bismarck. Bismarck est le seul qui ne soit pas vraiment un souverain ou un président qui ait eu droit à cette distinction. Et la dynastie, beaucoup plus rare, n'est donnée qu'à Édouard d'Angleterre et à François-Joseph en 1904. Bon, ça vous donne une idée un peu de l'usage qu'il fait de ces décorations comme d'un lien entre têtes couronnées, entre cousins de cette heureuse famille des souverains d'Europe. En même temps, il va essayer de créer une médaille, puisque le problème, c'est que les ordres sont beaucoup plus exclusifs. Les ordres, ce sont des ordres de chevalerie, entre guillemets, et par conséquent, c'est beaucoup plus astreignant quand il s'agit de les distribuer. Il va donc ressentir le besoin de doubler cet ordre de la distinction d'une médaille qui pourrait être distribuée à des personnages plus modestes, notamment à des gens qui méritent au sein de l'armée, au sein de la bureaucratie. Et c'est, vous reconnaissez, enfin, je vais vous faire reconnaître la même devise que sur la décoration en émeraude, Sadaqat, donc la loyauté, Hamiyet, patriotisme, Gairet, l'effort, Shejaat, le courage, ce qui lie en quelque sorte cette première version de la médaille à l'ordre de la distinction. Ce modèle ne sera toutefois pas retenu, puisqu'il sera remplacé en 83 par ce qui sera la version finale, et il sera appelé la médaille de l'Imtiaz, la médaille de la distinction, qui a deux particularités qui me paraissent importantes. Premièrement, l'usage d'une inscription du nom du bénéficiaire. Encore une fois, un trait de génie, on personnalise la récompense. On ne se contente pas de donner une médaille à un individu, on lui donne la possibilité d'inscrire son nom sur un bandeau vierge et par conséquent de se l'approprier, de signer en quelque sorte ce mérite. Et deuxième particularité, c'est le premier usage officiel des armes impériales, de l'armoirie, des armoiries impériales ottomanes. Et ça, c'est encore une fois une des inventions les plus brillantes d'Abdul Hamid, puisque c'est quelque chose qui était en gestation depuis quelques décennies, puisque les Ottomans ressentaient le besoin d'avoir, eux aussi, comme les grandes nations d'Occident, une sorte de symbolisme qui puisse représenter l'État et qui soit compréhensible internationalement. Puisque le problème, c'est que la représentation de l'État se faisait généralement, toujours en fait, par la Torah. La Torah, c'est-à-dire la signature du sultan. Or, cette signature, elle est indéchiffrable et complètement incompréhensible par les Occidentaux. C'est un gribouillis infâme et par conséquent, ça n'a pas la force de ce qui, en Occident, fait la symbolique de l'État. Et pour cela, ils ont été confrontés à des défis, notamment lorsque Abdulmejid à gauche et Abdulaziz à droite se sont vus octroyer l'ordre de la jarretière, l'ordre le plus prestigieux de la couronne d'Angleterre. Il y a eu un problème de taille, puisque la tradition veut que une plaque soit posée au nom de chacun des chevaliers de la jarretière dans la chapelle de Saint-Georges à Windsor. Et cette plaque, elle doit comporter quelque chose de banal dans un contexte occidental, les armoiries de cet individu. Or, les Ottomans n'en avaient pas. Ils n'avaient pas d'armoiries, et par conséquent, les Anglais, à deux reprises, en 1855 et en 1867, se sont amusés à inventer des armoiries pour les Ottomans, et qu'ont-ils fait ? Ils ont repris le système de base, qui était celui d'entourer de la jarretière l'écusson de la famille. Comme les Ottomans n'avaient pas d'écusson, on a remplacé l'écusson par la toura, et le plumet et le fez ont remplacé ce qui était l'aigrette des casques à plumes de la tradition moyenâgeuse. Donc, ce sont les Britanniques qui inventent des armoiries pour les Ottomans. Les Ottomans, une fois confrontés à cela, et on sait que depuis la fin du XVIIIe siècle, ils sont déjà confrontés au croissant et à la lune, c'est une invention occidentale, hein. Ce ne sont pas les Ottomans qui ont découvert le croissant et la lune et en ont fait le croissant et l'étoile et en ont fait le symbole de leur nation. Ce sont les Occidentaux qui l'ont fait pour eux, et eux qui ont fini par adapter ce symbole. Il y a des folies architecturales, par exemple au palais de Beyl Abbey, 1869, où l'on voit une tentative de créer une sorte d'armoirie ottomane avec un bric-à-brac d'armes à feu, de bannières, de drapeaux, de hallebardes, un casque au milieu, et bien sûr la toura, puisqu'on n'arrive pas à penser sans la toura, on n'arrive pas à symboliser l'État sans la toura. La tentative la plus complète est celle qui avait été faite par un certain Jean-Joseph Hart, un artiste belge, bruxellois, qui avait proposé une médaille commémorative des Tanzimat aux Ottomans, et il y avait dessiné une sorte de méli-mélo de tous les symboles qu'il arrivait à associer avec le passé ottoman. Alors vous y trouvez, vous y trouvez des boulets de canon, une cuirasse, l'édit des Tanzimat, la toura bien sûr, des drapeaux, des hallebardes. Enfin, c'est vraiment un bazar, un véritable bazar de symboles qui sont censés représenter l'Empire ottoman. Mais vous le verrez, et je vous ai déjà montré les armoiries de l'Empire que j'appelle avec beaucoup d'affection un sapin de Noël, on n'est pas loin du modèle de Hart. À la même époque, vers les années 1860, on voit dans la presse ottomane, dans la presse illustrée, des tentatives, encore une fois, et on lit ici « Armai Osmani », donc les armoiries ottomanes, des tentatives à créer quelque chose qui imite le modèle des armoiries moyenâgeuses ou moyenâgisantes du 19e médiévaliste, du 19e siècle, avec un écusson, quatre quartiers, etc. Bon, c'est tout et n'importe quoi. Mais Abdulhamid aura le mérite de mettre fin à ces hésitations, et il construira vers 1882-83 la version finale des armoiries de l'Empire. Et pour vous expliquer de quoi il retourne, je l'ai décomposée, nous allons la reconstruire, les reconstruire. Alors bien sûr, la toura décorée de El Ghazi, puisqu'il s'agit de lui, que l'on entoure de rayons de soleil, puisque c'est quand même illustre. On va insérer ça dans un croissant qui sera inscrit avec la formule sultan des Ottomans par la grâce de Dieu, El Mustenid Bitefekat el Rabbaniyeh. Ensuite, on va commencer des rayons de soleil pour compléter un peu ce qui surmonte les armoiries. Au milieu, comme dans la tradition occidentale, un écusson, donc un bouclier, que l'on surmontera d'un turban, et on choisit le turban que l'on appelle Kiratibi, très 18e, pour des raisons qui m'échappent totalement. Un drapeau vert avec le croissant et l'étoile qui symbolise la religion. un drapeau rouge identique qui symbolise la dynastie, qui symbolise l'État, et ensuite des lances, des hallebardes, des baïonnettes, des pistolets, des sabres, la balance de la justice qui surmonte deux livres. L'un qui représente bien sûr le Coran et l'autre qui représente les lois sultaniennes, c'est-à-dire le code civil. Ensuite, une cuirasse, on en a toujours besoin, un canon, une culasse de canon, un autre sabre, un je ne sais quoi, un sabre aussi, une corne d'abondance, une ancre, il ne faut pas oublier la marine, trois boulets de canon, un carquois avec des flèches, et ensuite un petit truc pour accrocher les ordres de l'Empire, notamment celle de l'Iftihar, celle de l'Osmani, celle du Mejidi, celle du Shefkat, la charité, et ça je ne sais même pas ce que c'est, mais enfin bon, un de ces ordres-là. Et voilà, votre sapin de Noël est prêt, et c'est quelque chose que Abdulhamid va utiliser systématiquement pour décorer tous les objets qui sont censés appartenir à l'État. C'est intéressant, en dehors du mauvais goût, du côté kitsch, etc., c'est intéressant parce que c'est une tentative, en quelque sorte, de dissocier le sultan de l'État, de créer une représentation autonome, indépendante de l'État, telle qu'on la voit en Occident, même si la Torah du sultan est toujours inscrite, ainsi que vous le voyez, au sommet de chacune de ces représentations. Mais c'est encore une fois une tentative moderne de tenter de moderniser l'État et les représentations de l'État. Et par conséquent, on va commencer à retrouver ces armoiries un peu partout à Istanbul. Tout nouveau bâtiment, tout bâtiment revendiquant une appartenance directe à l'État va être orné de des armoiries avec une inscription vantant bien sûr le sultan. C'est le cas par exemple de la porte d'une des portes d'entrée du Grand Bazar d'Istanbul. C'est le cas de ce que j'avais découvert à Alep, l'ancienne succursale de la banque agricole qui arbore encore une Zirat Bankası, qui arbore encore cette représentation des armoiries, et bien sûr à l'anglaise le fait d'être attitré, d'être autorisé à arborer les armoiries de l'État, le by appointment que l'on voit encore en Angleterre, qui certifie, qui confirme l'acceptation de telle ou telle compagnie, et ici la compagnie Lux, fournisseurs de Sa Majesté le Sultan, qui sont autorisés, et c'est très réglementé, à utiliser les armoiries. Encore une fois, même morts, les Ottomans vont arborer toute cette symbolique. Et par conséquent, vous avez, dans le cas des cénotaphes de deux pachas bien connus, celui-ci c'est Mahmoud Jelal ed-Din Pacha, vous voyez que les armoiries de l'Empire y sont représentées, et encore une fois c'est quelque chose qui est documenté, que l'on trouve dans les archives, l'autorisation de décorer une stèle de ce symbole est quelque chose qui se décide au niveau du palais. Et Abdulhamid, une fois qu'il aura constitué ce noyau dur de son symbolisme, va commencer à développer cette rhétorique de la récompense. Il va notamment, lors de la visite de Guillaume et d'Augusta en 1889, il va créer une médaille commémorative qui est en quelque sorte une sacralisation, une consécration des armoiries ottomanes, puisque cette énorme médaille en or qui commémore la visite de Guillaume II affiche d'un côté les armoiries ottomanes avec une inscription en turc, et de l'autre côté, les armoiries des Hohenzollern, de la maison régnante d'Allemagne, avec une inscription en allemand. Vous voyez le parallélisme, c'est un peu comme ça que fonctionne la diplomatie ottomane. On essaye de prouver qu'on est à la hauteur, au niveau de la symbolique occidentale, en associant les symboles ottomans à ceux de la de l'Occident. C'est alors qu'il va créer une seconde médaille du mérite. On avait vu la première. Celle-ci est plus petite. Et encore une fois, c'est un trait de génie, puisqu'il lui faut des classes. Il veut diffuser ce système de récompense aussi largement que possible. Et par conséquent, il lui faut créer des catégories de plus en plus modestes. Voici donc la médaille de l'IA4. Et l'IA4, c'est le mérite. C'est par conséquent une médaille qui se définit par la consécration du mérite militaire ou civil d'individus. Et nous avons un témoignage amusant de Louis Rambert, qui était un membre de la dette publique ottomane, qui raconte comment il avait reçu la médaille du Liakat Suisse, n'est-ce pas, et assez hautain, il déclare, c'est une pièce en or un peu plus grande qu'une livre turque suspendue à un petit ruban rouge et vert. Il m'en a coûté, selon l'usage, 5 livres de bakchich, 5 livres donc en fait 5 fois le prix de la valeur de la médaille, distribuée au personnel du chambellan. La médaille n'est même pas belle, grossièrement gravé, d'un côté avec les armes impériales, voici, de l'autre des caractères turcs. Hein, bon, une attitude. Mais l'objectif, justement, d'Abdul Hamid n'était pas de créer de la beauté, mais de créer quelque chose qui puisse être circulé, diffusé, au point de créer une petite boîte d'allumettes, en quelque sorte, avec l'inscription LIA4, ce qui montre à quel point c'est une décoration modeste, qui se veut modeste et qui se veut être octroyée à un grand nombre d'individus méritants. Et nous avons très peu de photographies qui représentent la remise de médailles, etc. Celle-ci est la seule que j'ai pu trouver, et je trouve que c'est amusant de voir ces officiers qui fixent l'objectif de la caméra et tiennent fièrement les médailles qui ont été décernées à de simples troufions, et on voit comment ces médailles commencent à se faire de plus en plus nombreuses sur les poitrines de ces individus. Autre médaille, et là aussi il innove, la médaille de la gloire ou des arts ou de l'industrie, c'est-à-dire un mérite civil. Donc, on voit bien qu'il essaye de se dissocier d'une vision étroite, trop militaire, trop bureaucratique, et il commence à imaginer des récompenses pour des individus qui n'appartiennent pas aux catégories les plus prévisibles des bénéficiaires. Et là aussi, il permet de créer une sorte de personnalisation en laissant le revers de cette médaille vierge, à l'exception de cette couronne de laurier, pour permettre aux individus de les signer, d'y inscrire leur nom, de se les approprier chacun à leur guise. La médaille de l'agriculture et de l'industrie, qui n'a pas vraiment un succès monstre, d'autant plus qu'il n'y a pas vraiment d'avancée extraordinaire, mais on voit bien le symbolisme extrêmement moderne avec l'enclume, la locomotive, la grue, etc. On voit bien qu'on est en train de pêcher dans le vocabulaire et la rhétorique occidentale pour représenter toutes les facettes de la modernité jusqu'à créer la médaille de l'instruction qui, vous le reconnaîtrez probablement, est en fait une imitation des palmes académiques françaises. C'est vraiment la même image qui est créée avec un revers où s'inscrit le nom de l'individu et bien sûr surmonté du croissant et de l'étoile pour le rendre plus turc. Autre innovation majeure, les médailles qui sont donnés en contrepartie de donations, en contrepartie de soutien financier à une cause nationale. En 1994, le séisme d'Istanbul sera désastreux. Il ouvre une campagne de souscription et distribue des médailles selon de qualités différentes selon les sommes versées à la caisse de l'État pour le soutien des victimes du séisme. Quelques années plus tard, il fera la même chose pour la famine en Anatolie, la même chose pour ce qu'il appelle l'équipement militaire, une contribution populaire à l'enrichissement de l'armée, avec à chaque fois la même devise qui revient, Nishanei Hamiyet Vataniyeh, c'est-à-dire preuve de patriotisme, preuve d'amour de la patrie. Donc c'est vraiment des médailles civiques, la création de médailles civiques qui permettent de drainer un peu l'argent du public pour essayer d'alimenter certaines causes vues comme nécessaires. Encore une fois, Nishane Insaniet Veshevkat, avec à l'avers une représentation d'un bâtiment qui sera érigé en 1897 pour ériger une kermesse, un bazar de charité pour les orphelins et les blessés de guerre après le conflit gréco-turc de 1897. Donc vraiment, il va trouver toutes sortes de causes nationales qui vont encourager le public à prouver leur loyauté et leur attachement au sultan en achetant des médailles. Et bien sûr, le couronnement, c'est le chemin de fer du Hejaz, qui lui aussi ne sera pas financé par des médailles, mais l'achat de médailles va participer à son financement, et c'est quelque chose, encore une fois, que des gens d'Equidam pourront arborer en étant fiers d'avoir contribué à un projet panislamique, le transsaharien du sultan, et d'avoir contribué au développement de leur pays. La guerre de gréco-turc de 1897 est exceptionnelle, d'abord parce que c'est une victoire du côté ottoman, aussi parce qu'elle ne dure qu'un mois, mais surtout parce que elle sera l'occasion d'une mobilisation totale de la propagande hamidienne pour justement faire circuler et diffuser ce discours patriotique. Et c'est la première fois que l'on voit le sultan non pas lui-même prononcer un discours, mais faire prononcer un discours en son nom où il s'adresse directement, et ça c'est du nouveau, il s'adresse directement aux soldats, mes chers enfants, racontant un peu les conditions de la guerre, et je vous en remets... J'ai fait frapper une médaille pour rappeler les victoires enregistrées pendant cette campagne de Grèce. Je vous en remets une à chacun d'entre vous, à l'ombre de ce drapeau orné du nom de Dieu, en reconnaissance de votre intégrité, votre loyauté et votre bravoure. C'est le petit père du peuple, c'est l'autocratie un peu à la russe, Abdulhamid, qui sent vraiment s'intégrer dans des bains de foule. Nous savons qu'il restait bien enfermé dans son palais de Yıldız, va néanmoins essayer de créer une sorte de rituel paternel de son empire et de son patriotisme. Et d'ailleurs, un détail intéressant, c'est de voir comment cette même médaille a été récupérée par des par les arts populaires. C'est-à-dire que la médaille officielle, la voici à gauche, et là, vous l'avez réinterprétée. Ici, c'est l'art de la savak que l'on connaît bien en Arménie et en Anatolie de l'Est. Là, c'est plutôt un art yuruk, les Turkmènes des hauteurs. On voit bien que le peuple, ceux qui ont eu droit à cette médaille, la revendiquent et acceptent en quelque sorte la rhétorique impériale à tel point qu'ils l'interprètent avec leurs propres valeurs locales, culturelles. Le Yémen, la Crète, des défaites en général, mais on voit bien que le petit train-train quotidien des médailles va continuer pendant tout le règne. Et si l'on veut regarder, si l'on veut se faire une idée de un tableau synoptique des médailles ottomane sous Abdulhamid, on voit bien qu'il a une série militaire pour des campagnes qui se traduisent souvent par des défaites. Le mérite, c'est-à-dire le désir de récompenser des gens que l'on peut reconnaître comme ayant contribué à la modernité et à la loyauté envers l'Empire, les médailles de solidarité qu'il invente à partir de 1894, la diplomatie, un cul-de-sac qu'il va pratiquer plutôt avec les trois ordres que j'ai représentés. Pour terminer, le bilan. Voici une citation de la presse autrichienne en 92. Il y a eu dimanche passé un dîner, un concert chez Sa Majesté impériale le Sultan en l'honneur du prince Charles, frère du prince héritier de Roumanie. Sa Majesté impériale a failli, en entrant dans la salle du concert, devenir la victime d'un grave accident par suite de la chute d'un paravent que le prince Charles est parvenu heureusement à saisir au passage. Sa Majesté impériale, le Sultan, a conféré au prince la médaille de sauvetage. Alors, c'est cocasse, mais c'est quelque chose qu'il faut considérer dans le contexte de cette politique, puisque il est évident qu'à force de créer des médailles, à force de vouloir la prolifération des médailles, le risque, c'est justement que ces médailles n'aient plus vraiment de sens. Et l'autocratie, bien sûr, ne contribue guère à la valorisation des médailles. D'ailleurs, il est intéressant de voir qu'Abdulhamid lui-même ne portait que l'Osmanie, alors qu'en tant que jeune prince, il était très décoré lorsqu'il était en Angleterre en 67, mais il est connu pour sa sobriété, son costume extrêmement sobre et le fait qu'il ne portait jamais que l'Osmanie. Tandis que l'entourage du sultan, eux aussi, se promenaient comme des sapins de Noël, un peu comme les armoiries de l'Empire, à tel point que Saïd Pacha, je vous l'ai déjà montré, était représenté en caricature comme un petit nabot, un nain de jardin décoré noyé pratiquement dans les décorations. Et c'est quelque chose qui est repris dans l'assiette au beurre, puisque qui dit médaille dit aussi corruption. N'oublions pas qu'au XIXe siècle, le siècle des décorations, il y a aussi des courants anti-décoration. Il y a beaucoup de gens qui, en France par exemple, refusent la Légion d'honneur parce qu'ils considèrent que c'est un ordre dépassé et que c'est quelque chose qui est donné n'importe comment, qu'il y a népotisme et favoritisme et que par conséquent, ne pas en avoir est beaucoup mieux. D'ailleurs, on trouve dans la littérature populaire ottomane bien des exemples de petits poèmes qui reprennent ce thème de la dévalorisation des décorations. Nous sommes des soldats et notre gloire est dans l'armée. Le sang de nos blessures constitue nos vraies médailles. Certes, on a bien coutume de distribuer des décorations, mais la seule vraie pour un soldat est une flèche en son sein pointé. J'ai essayé de faire rimer, vous savez que bon. Autre dans le même genre, la décoration que j'ai reçue au front au prix de ma vie orne aujourd'hui la poitrine des larbins du gouverneur. Vous voyez la critique. Si les récompenses se font à tel point nombreuses, aux yeux de l'armée, les médailles garderont bien peu de valeur. Des poètes, Soubi Pacha, on n'est pas sûr que ce soit de lui, mais l'abondance a ôté leur valeur aux décorations de l'État. La seule décoration dont je suis fier est d'en avoir pas. Donc vraiment un discours qui dévalorise et qui prouve à quel point cet abus de l'usage des décorations est quelque chose qui va à l'encontre du sens même des récompenses. Eschef, un poète satirique très connu, est l'auteur d'un quatrain assez pointu, disons, où il parle de pédérastes et de macros sans exception, recevant des grades et des décorations au moindre souffle. Vraiment quelque chose d'extrêmement violent, et je retiens particulièrement ce couplet des chefs. S'il était nécessaire de compter les animaux décorés, c'est dans l'almanach, il parle du Sahalnahmeh, l'almanach de l'État, que les fainéants sont décomptés. Eh bien, je l'ai suivi, je l'ai pris au pied de la lettre, et j'ai comptabilisé en 1906 les fainéants, les macros et les pédérastes dans l'almanach de l'État, édition de 1906. Et je ne sais pas pourquoi. Ah oui, voilà. J'ai donc dénombré près de 10 000 individus. Oui, je me suis bien amusé. Et je suis allé voir un peu comment étaient distribuées ces décorations. Et on voit tout de suite qu'il y a une norme, c'est-à-dire que si l'on voit la moyenne, en rouge, vous avez tous les chiffres qui dépassent la moyenne. Donc vous avez des catégories qui, immédiatement, ont droit à une faveur, à un traitement de faveur. C'est notamment le cas de la dynastie où la moyenne de décoration pour tous individus, femmes comprises, est de 2,2. Ce qui veut dire en gros que être prince, princesse, c'est une garantie de recevoir, comme de routine, toutes les décorations et les plus prestigieuses, notamment les ordres de prestige en diamant, premier ordre, etc., première classe. Mais ce qui est frappant, c'est de voir qu'il y a aussi une hiérarchie qui va du palais, et on se souviendra que Abdulhamid, son système, il est fondé sur la centralité du palais, son propre entourage, la marginalisation de la sublime porte, c'est-à-dire du gouvernement, et on voit cela se traduire par la manière dont le palais a pratiquement la moitié des individus, ou chaque individu a au moins une chance sur deux de recevoir un ordre de prestige, la moitié aussi a automatiquement droit à une médaille de distinction en or, tandis que l'administration centrale, la sublime porte, le gouvernement, si vous voulez, lui, est beaucoup plus lésé, puisque c'est dans les ordres ordinaires qu'il est beaucoup plus achalandé, tandis que les ordres supérieurs, les ordres de prestige, ne sont que très peu représentés. C'est pire encore dans l'administration provinciale. Et l'armée est entre les deux, et par conséquent, on voit se dessiner, grâce à ce tableau, une sorte de hiérarchie du système hamidien. Un système où la dynastie, bien sûr, symboliquement, est au sommet, et où le palais domine tout le système politique, recueille tous les honneurs, où le gouvernement est marginalisé, mais où l'administration provinciale est complètement oubliée, et par conséquent, on se rend compte que les médailles, les distinctions, elles ne font que confirmer un système déjà en existence. Or, l'objectif des médailles, notamment des médailles de mérite, c'est d'inverser ce genre de situation, d'offrir à des quidam la possibilité de briller du fait de leur mérite, du fait de faits exceptionnels. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que Abdulhamid utilise en gros les médailles pour doubler le système qu'il a mis en place et que par conséquent, il y a véritablement une dévalorisation, puisque lorsque vous voyez un tel système, vous comprenez que tout individu, selon son appartenance à une catégorie ou une autre, aura une vision de la chance qu'il a de recevoir telle ou telle décoration. Et par conséquent, les décorations deviennent des objets de routine, deviennent en quelque sorte une confirmation du rang, de la position des individus, quelque chose qui ne fait que confirmer ce qui existe déjà sans vraiment apporter le véritable élément de mérite que ce genre de système est censé représenter. Donc, il y a dévalorisation, il y a effectivement une forme de fainéantise autour de la bureaucratie et de l'appareil de l'État, et les décorations ne font que refléter ça. Mais en revanche, ce qu'elles reflètent, et ça je l'ai dit dès le départ, c'est en quelque sorte le génie, la capacité d'Abdulhamid à utiliser, à manipuler, à conjuguer un système de symboles importés d'Occident qu'il adapte aux besoins de son empire et qui devient en quelque sorte un élément crucial de la gestion au jour le jour, la gestion quotidienne de son système. J'ai dépassé de quelques minutes le temps de mon séminaire. Je vous prie de m'en excuser. Je vous remercie pour votre patience et je vous dis à lundi pour parler de quelque chose de bien plus triste et de bien plus dérangeant, le massacre de 1886-96 à Constantinople, l'anatomie d'un massacre. Merci.